Dans l'Ecclésiaste, nous lisons ceci. Le roi Salomon nous dit, oui, j'ai appliqué mon cœur, pardon. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux, c'est-à-dire ils ne savent pas l'avenir. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie, donc qui adore Dieu par le sacrifice de l'Ancien Testament, et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà approuvé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu du travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Un petit mot d'introduction. Pourquoi un tel passage aujourd'hui? C'est un peu dangereux, peut-être de prêcher sur cela, un passage de parler de manger avec joie son pain et de boire gaiement son vin dans un tel temps de crise. Mais le mal complique la vie, n'est-ce pas? Pensez à une femme qui attend avec beaucoup d'ardeur le jour qui s'approche où elle va devenir grand-mère. Parce que son enfant attend un bébé. Alors, le jour arrive, elle reçoit l'appel le matin qu'elle est devenue grand-mère. Elle voit par FaceTime ou Skype, je ne sais pas aujourd'hui, le visage de ce beau bébé et elle est dans une joie formidable. Sauf que le soir, son mari a un infarctus et il meurt. Comment peut-on vivre dans une telle existence où peine terrible et joie formidable se mêlent? C'est notre tâche à tout moment, mais nous la voyons de plus près peut-être aujourd'hui. Et un des problèmes que nous pouvons avoir, c'est de ne pas être réveillé à ce qui est important par les jugements de Dieu quand ils viennent dans le monde. Mais un autre problème, c'est d'être tellement préoccupé par le mal qui frappe que nous ne voyons que cela. Nous ne voyons que vanité, peine et douleur. Et c'est pour cela que je voudrais passer quelques moments avec vous aujourd'hui à élargir notre horizon et parler de comment le chrétien vit dans un monde endouloré et un monde de vanité. Premier point. À cause de la vanité de ce monde, vous ne pouvez trouver votre joie et votre sens ultime dans quoi que ce soit ici-bas. C'est un peu le thème majeur du livre de l'Ecclésiaste. Dieu veut nous dire, veut nous enlever cette illusion que le mariage ou le travail avec succès ou les plaisirs du légitime du monde, comme le manger, le boire, les richesses. Dieu veut nous enlever cette illusion qu'une de ces choses ou plusieurs d'entre elles pourraient remplir notre cœur complètement. Nous lisons dans l'Ecclésiaste, donc, par exemple, que Salomon, qui avait eu l'occasion d'avoir toutes ces choses en abondance, il avait même des centaines de femmes et de très, très grandes richesses. Et il dit ceci, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. » Il a dû même s'en repentir après, et c'est pourquoi il a écrit le livre d'Ecclésiaste, mais en tout cas, il s'en est donné à cœur joie. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, mais car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, le temps passe, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Aucun bien ici-bas n'est suffisant pour donner un sens ultime à vous en tant qu'être humain. Mais c'est pire que cela. Nous lisons que nous vivons au milieu d'un monde vraiment terriblement tordu. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil et voici les opprimés sont dans les larmes. Et personne qui les console. Partout dans le monde aujourd'hui, il y a des endroits qui correspondent exactement à cette description. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Tout ce qu'on fait, c'est pour être plus grand que l'autre. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc, voilà pour le premier point. Il n'y a rien ici-bas qui peut nous donner une joie qui serait complètement satisfaisante et ultime. Deuxième point. Dieu a pourvu un moyen, néanmoins, de vivre chaque jour avec joie dans un monde qui reste frustrant. Nous avons lu tout à l'heure que au milieu de cette vanité, l'Ecclésiaste nous dit de faire ceci. Enfin, Dieu nous dit de faire ceci au milieu de cette vanité. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà approuvé tes œuvres. qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Nous voyons que ce passage, et vous le voyez en caractère vert, Dieu nous commande d'avoir de la joie, de sérieusement poursuivre la joie dans la vie. Mange avec joie, bois gaiement, que tes vêtements soient blancs. Et les vêtements blancs, c'était les vêtements pour des événements de réjouissance. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Aussi, un signe de bien, d'abondance et de joie. Et nous voyons dans le passage que Dieu nous dit que ça doit être une expérience constante et pas sporadique. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et jouer de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. Donc, au milieu de cette vanité, et même aujourd'hui dans cette crise sanitaire terrible, tous les jours de notre vie, le bien, les dons de Dieu sont présents. La vanité et le mal ne peuvent pas les effacer et nous devons nous en rendre compte. Regardez que c'est bien, va manger ta joie et bois gaiement, mais dans cette phrase en violet, pendant tous les jours de ta vanité. L'Ecclésiaste n'est pas en train de nous dire que nous pouvons être heureux parce qu'il n'y a pas de problème. Il est en train de nous dire le contraire. Au milieu des désastres, des chagrins et même des larmes, la perte d'un travail, la perte d'un être cher, va, mange avec joie ton pain, etc. Troisième point. Cette joie que Dieu nous commande n'est pas la joie ultime à laquelle nous aspirons, mais une joie substantielle par laquelle Dieu nous bénit sur notre chemin vers lui. Je suis en train de lier cela au premier point. J'avais dit que rien ici-bas ne peut vous donner une joie ultime. Donc, ces joies dont l'Ecclésiaste parle et dont Dieu nous parle, ce n'est pas des joies ultimes. Ça ne peut pas vous satisfaire complètement. Vous ne pouvez l'être jusqu'à ce que vous arriviez à votre Dieu. Mais ces joies sont des joies substantielles par lesquelles Dieu lui-même nous bénit sur le chemin dans une vie, dans un monde de vanité et de drame. Nous lisons dans l'Ecclésiaste et chapitre 12 ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, bénis de ton cœur le chemin, le chagrin. C'est Dieu qui nous dit cela. Bénis de ton cœur le chagrin. Ne passe pas ta vie comme si je ne suis pas bon et comme si le chagrin, c'est tout ce qu'il y a. Et éloigne le mal de ton corps. Souviens toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Mais regardez ceci. C'est pour ça que je dis que ces joies sont des joies substantielles, mais pas ultimes. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Il parle de la vieillesse. Et maintenant, il décrit la vieillesse d'une manière imagée. « Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, on ne voit plus bien quand on est âgé. Que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent. » Donc, on tremble, les âmes fortes se courbent, et celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Donc, nous comprenons bien que nous avons besoin d'arriver à la joie ultime. Je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui que Dieu va vous donner une joie ultime dans votre pain, dans votre vin, dans votre femme que vous aimez, mais Dieu va vous donner une joie substantielle et montrer qu'il est bon au milieu d'une vie de vanité. Quatrième point. Dieu vous commande de vous appliquer sérieusement à vous réjouir dans ces dons de la vie ordinaire comme la part qu'il vous donne dans ce monde de vanité. Regardez comment nous avons des impératifs. Dieu nous dit « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà approuvé tes œuvres. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Un autre impératif, « Jouis de la vie. » Dieu nous parle comme cela. Pourquoi? Parce que le pain, le vin, ta femme, toutes ces choses de la vie ordinaire sont en fait des dons de Dieu. La manifestation de la présence de Dieu dans la vie du croyant est aussi de sa faveur. Regardez ceci. En Ecclésiaste 3, il revient sur ce thème, mais regardez ce qu'il dit. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On ne comprend pas l'avenir, on ne sait pas tout ce que Dieu est en train de faire, mais on a la pensée de l'éternité en nous. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir dans ce monde de vanité. Il n'y a que de bonheur qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit de bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Nous pouvons le faire et nous devons le faire parce que ces choses sont des dons de Dieu que nous devons accueillir. Nos vies, les amis, ne sont pas définies, ta vie n'est pas définie par ce que tu peux accomplir dans ton travail. Ta vie est accomplie par ce que Dieu donne, lui, te donne dans sa bonté. Pensez à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Quel était leur métier avant la chute? C'était des jardiniers. Ils n'avaient rien de plus important à faire que de prendre soin d'un jardin. On ne peut pas se définir et trouver un sens ultime par ce que nous faisons. Le sens de leur vie, c'est d'avoir été fait par un Dieu d'amour qui les aimait, qui les a plantés dans un paradis et qui leur donnait ce paradis et qui marchait avec eux le soir au milieu d'un paradis. Le sens de leur vie, c'était le don de Dieu, la grâce, la faveur, l'amour de Dieu qui se manifestait dans leur vie de tant de manières. Et c'est ainsi que nous devons aussi vivre. Maintenant, juste une parenthèse. En vous exhortant aujourd'hui à vous réjouir de ces dons ordinaires de la vie, va, mange ton pain avec bonheur, bois gaiement ton vin, jouis avec la femme que tu aimes, je ne suis pas en train de préconiser cette attitude occidentale de ceux qui vivent pour le week-end. C'est vraiment le contraire de ce que l'Ecclésiaste est en train de dire. Il est en train de dire que Dieu te bénit tous les jours, pas le week-end, pas artificiellement le week-end quand tu cherches quelque chose qui peut être extraordinaire, mais non, dans l'ordinaire de tous les jours, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles et regarde comment Dieu est avec toi et te bénit et te donne. Cinquièmement, c'est l'avant-dernier point. La raison pour laquelle nous pouvons trouver une telle joie dans les dons ordinaires et quotidiens, c'est que Dieu nous a déjà approuvés. Regardez le verset 7 de notre texte. « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car la raison pour laquelle tu peux le faire, car Dieu a déjà approuvé tes œuvres. » Alors, nous n'avons plus rien à prouver à Dieu. Nous n'avons pas à chercher péniblement à vivre sous le sourire de Dieu et sa faveur si nous sommes croyants en Jésus-Christ. Nous avons cette bénédiction suprême déjà. Sans cette faveur de Dieu, aucun don ici-bas n'a pas beaucoup de valeur. Parce que si nous allons vers l'enfer, à quoi bon de se jouir des dons ordinaires de la vie pendant cet espace si limité sur terre? Mais nous voulons nous poser quelques questions au sujet de cette phrase parce qu'elle est la clé de comment, au milieu d'une vie douloureuse parfois, endoulourée, un monde de vanité, nous pouvons quand même avoir cette joie substantielle et ne jamais être submergés par le mal qui frappe la vie. Donc, nous voulons poser quelques questions. Dans la première, qui sont les personnes dont Dieu a déjà approuvé les œuvres? Va manger ton pain avec joie, car Dieu a déjà approuvé tes œuvres. Mais qui sont ces personnes? Nous lisons dans l'Ecclésiaste que ce n'est pas tout le monde que Dieu approuve. Il dit par exemple dans le deuxième chapitre, « Car il donne à l'homme qui lui est agréable. » Il y a des hommes qui lui sont agréables, la sagesse, la connaissance et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Et puis, dans le chapitre 8, nous lisons « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur dont nous parlions pendant tout ce message est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Les croyants subissent les choses horribles dans ce monde, comme les méchants. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil, qu'à manger et boire et à se réjouir, c'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sur le soleil. Donc, les personnes dont Dieu croit, parle ici, c'est les croyants, c'est les vrais croyants. Et si vous ne l'êtes pas, Dieu vous exhorte et vous appelle dans son amour, venez à moi. Accepter mon don de salut aujourd'hui. Mais, deuxième question, quelles sont les œuvres que Dieu a déjà approuvées? Parce que le texte nous a dit, va manger ton pain avec joie, car Dieu a déjà approuvé tes œuvres. Alors, les œuvres que Dieu approuve, Certains disent que le texte parle du fait de manger et de boire et le mariage, de jouir de la vie avec sa femme, que Dieu a déjà approuvé cette sorte de vie parce que c'est lui qui le donne. Vas-y, fais-le parce que Dieu a déjà approuvé cette sorte de choses. Sauf que dans le contexte du chapitre, il est parlé des œuvres de l'homme juste et de l'homme méchant, et il s'agit en fait de toute notre course de vie, notre vie en général, notre activité humaine. Que c'est une manière de dire que la vie du croyant est déjà une vie approuvée, une vie vécue sous l'approbation de Dieu. Nous avons donc ici un exemple de la justification par la foi dans l'Ancien Testament. Quand il dit « Mange ton pain avec joie parce que Dieu a déjà approuvé tes œuvres, a déjà approuvé ta vie », nous voyons que nous sommes approuvés avant de terminer notre course. Avant de terminer nos œuvres, nous sommes déjà approuvés. Donc, ce ne sont pas nos œuvres qui nous obtiennent d'être approuvés par Dieu. Cette approbation vient avant. Vas-y, mange ton pain. Dieu t'a déjà approuvé. Tu n'as pas besoin de faire des œuvres pour ça. C'est déjà présent. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Martin Luther a dit ceci. Il dit, mais si nous doutons ou si nous ne pensons pas que Dieu nous est clément, hein, si vous n'êtes pas chrétien, lisez bien cela avec moi aujourd'hui, prenez ça pour vous. Si nous doutons et si nous ne pensons pas que Dieu nous est clément et que nous lui sommes agréables, ou si nous prétendons seulement lui être agréable par nos œuvres et après l'accomplissement de nos œuvres, c'est là pure imposture. Extérieurement, on vénère Dieu, intérieurement, on s'érige soi-même en idole. Qu'est-ce que Luther venait dire? Il dit que si vous ne pouvez pas vivre une vie où vous êtes déjà approuvé, c'est que vous faites de vous-même une idole. C'est-à-dire, tout dépend de vous. L'approbation du ciel dépend de vos œuvres, donc c'est vous qui êtes la personne qui obtient la faveur, la vie éternelle par vos œuvres, et c'est vous qui êtes Dieu. Si Dieu est Dieu, il faut que la vie éternelle vienne de lui. Lui. Et ça veut dire que c'est son œuvre, son don. Et il peut nous donner maintenant sans notre aide et sans notre contribution. C'est le fait que vous êtes déjà définitivement approuvé qui vous libère pour prendre de la joie en Dieu. D'abord en Dieu. Tu m'as pardonné, tu m'as aimé, tu m'aimes, tu m'approuves pour toujours, même si j'en suis pas digne. C'est ça qui nous libère pour prendre de la joie en Dieu et donc après prendre la joie dans tous ces dons ordinaires. Écoutons Luther encore. Car si je ne pourrais avoir confiance en Dieu, si je ne pensais qu'il veut m'être favorable et clément, ce qui me rend à mon tour porté vers lui et me dispose à avoir du fond du cœur confiance en lui et à attendre de lui toutes choses bonnes. J'aurais dû inclure une petite partie qui venait avant parce que j'ai rendu la situation un peu difficile à comprendre. Mais Luther veut nous dire que ce qui me rend à mon tour, il dit au milieu de ce passage, porté vers lui, ce qui le rend possible pour toi de prendre joie en Dieu et puis de regarder votre pain et votre vin et votre femme ou votre Marie, les bonnes choses comme des dons, des expressions de cette approbation, de cette faveur de Dieu, c'est qu'il a déjà il vous a déjà justifié sans votre contribution. Le psaume 63 dit « Ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Quand nous pouvons prendre pour nous-mêmes cette phrase « Va manger ton pain avec joie, car Dieu t'a déjà approuvé. » Son approbation, sa bonté, sa faveur vaut mieux que la vie, le pain, le vin, le conjoint, tout. Et une fois nous avons cette faveur, cette bonté de Dieu, c'est comme un soleil qui illumine tout le reste de notre existence et fait de tout le reste de notre existence des choses lumineuses et bienfaisantes, des dons, des expressions de cette même faveur. La doctrine catholique du salut par les œuvres a poussé les gens à se sentir coupables quand ils faisaient les choses ordinaires de la vie et quand ils jouissaient des plaisirs légitimes. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait un grand problème à l'époque où l'Église catholique régnait un peu en Occident, où les gens croyaient la doctrine du salut par les œuvres. Cela a fait descendre sur les populations de l'Europe une profonde inquiétude et une sorte de schizophrénie dans la vie. Parce que si tu dois gagner l'approbation de Dieu par tes œuvres, il faut que tu sois toujours en train de faire quelque chose de religieux. C'est quelque chose qui va compter, quelque chose qui va ajouter à ta liste de favorable, de bonnes œuvres. Et c'est pour cela que dans cette période de temps, les gens considéraient que les moines et les bonnes sœurs, ceux qui passaient tout leur temps à faire quelque chose de spirituel, ça c'était les gens qui pouvaient être vraiment heureux. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de faire ce qu'il fallait pour être approuvés. Et les gens qui étaient fermiers, qui étaient agriculteurs, qui travaillaient dans les travaux manuels, ils se considéraient comme condamnés au wagon de seconde classe, à une vie vraiment plongée dans une sorte d'inquiétude qu'on ne peut pas enlever, parce qu'on ne peut jamais savoir si on est approuvé. En tout cas, on ne peut pas maintenir l'approbation de Dieu envers nous si on n'est pas en train de faire quelque chose de religieux. Et donc, écoutez bien ce que Luther dit, vous allez comprendre comment les gens se sentaient à l'époque. Et ce dont nous sommes libérés, en sachant que nous sommes déjà approuvés par Dieu, par sa pure grâce en Jésus. Lisons Luther. Il parle au sujet de ces gens qui croient dans ce salut par les œuvres. Et si tu leur demandes ensuite s'ils considèrent aussi comme des bonnes œuvres le fait d'exercer leur métier, d'aller, de s'arrêter, de manger, de boire, de dormir, et d'accomplir toute action nécessaire à la vie du corps et au bien commun, si tu demandes aux gens de l'époque, est-ce que ça c'est des bonnes œuvres, d'exercer ton métier, de dormir, de faire tout cela, et s'ils croient qu'en cela, ils sont agréables à Dieu, tu découvriras qu'ils disent non, je ne suis pas agréable en faisant des choses ordinaires, et qu'ils limitent les bonnes œuvres si étroitement qu'elles consistent uniquement dans les prières à l'église, les jeûnes et les aumônes, le reste, ils le considèrent comme inutile, sans importance au regard de Dieu, et ainsi, par leur maudite incrédulité, ils diminuent et amoindrissent le service de Dieu que sert tout ce qui est fait, dit et pensé dans la foi. Qu'est-ce que Luther veut nous dire ? Il veut nous dire ceci. si vous êtes déjà approuvé et si Dieu prend plaisir à vous donner le pain, le vin, un conjoint et bien des joies ordinaires. Alors, quand vous acceptez ces choses comme venant de Dieu et de sa grâce, et quand vous jouissez de ces choses, vous êtes en train de faire une bonne œuvre formidable, parce que vous êtes en train de glorifier Dieu en ayant confiance dans sa bonté et en basant votre vie sur cette bonté. Vous êtes en train de vous jouir de Dieu, tout simplement, de cette manière. Mais si vous pensez que seulement les prières, les jeûnes et les aumônes, les occupations des moines et des bonnes sœurs sont des choses qui peuvent être considérées comme des bonnes œuvres, vous avez tellement réduit la possibilité de faire des bonnes œuvres. Alors que dans tout ce que vous faites, vous pouvez faire une bonne œuvre si vous le faites en croyant que Dieu vous donne ces choses et que vous le faites dans la reconnaissance pour sa faveur. Cette approbation gratuite de Dieu n'est pas pour les chrétiens parfaits, mais pour ceux qui pêchent encore. J'arrive, je tire vers la fin du message, mais il y a un petit mot pour le perfectionniste. Peut-être vous me dites, tout cela c'est très bien, mais comment est-ce que je peux me considérer approuvé par Dieu et donc jouir de mon pain, de mon vin, de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de mes amis, des dons ordinaires de la vie, alors que souvent je fais des bêtises encore, que je déplore, que je ne veux pas faire, et je suis coupable de choses souvent que Dieu n'approuve pas. Nous lisons effectivement, l'Ecclésiaste le comprend bien, il dit, il n'y a sur la terre point d'âme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes de ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois, je souligne bien des fois, que tu as toi-même maudit les autres. Oui, nous sommes coupables de choses que Dieu n'approuve pas. Comment est-ce que nous pouvons aller manger et boire avec joie, nous considérant comme des gens que Dieu approuve déjà? Alors, Luther nous donne la réponse. Il dit ceci. Cependant, tu dis, comment puis-je avoir la certitude que toutes mes œuvres plaisent à Dieu lorsque pourtant il m'arrive de succomber, de parler, de manger, de boire, de dormir à l'excès, de dépasser d'une manière la mesure et que je ne puis l'éviter? Réponse. Cette question montre que tu considères encore la foi comme une œuvre parmi les autres et que tu ne la places pas au-dessus de toutes les œuvres. En effet, elle est l'œuvre par excellence, précisément parce qu'elle demeure. Même quand tu fais des bêtises, ta foi en Christ comme sauveur demeure et efface ces mêmes péchés quotidiens, car elle ne doute pas que Dieu t'est si favorable qu'il ferme les yeux sur ses défaillances et sur cette faiblesse. Bien sûr, nous ne voulons pas mal comprendre Luther. Il n'est pas en train de nous dire que nous n'avons pas besoin de nous repentir ou que Dieu ne tient aucun compte en tant que père de nous qui sommes ses enfants lorsque nous faisons des péchés. Il veut dire que lorsque nous sommes croyants, l'homme de foi est quelque chose de plus que ses actions isolées. Je peux avoir des actions isolées, mais je suis un homme de foi. Je suis donc un justifié. Je vis sous la faveur de Dieu. Nous pouvons penser, bien sûr, à Pierre, quand Jésus dit, « Pierre, Pierre, ce soir, tu vas me renier trois fois, mais j'ai prié pour toi. » Ou bien tous les disciples ce soir-là qui se disputaient sur qui était le plus grand. Et est-ce que Jésus les rejette ce soir-là? Non, il leur lave les pieds. Il les considère comme les gens qui l'approuvent, malgré le fait qui se disputent pour savoir qui est le plus grand. Ça, il réglera ça avec le temps. Mais le plus important, c'est que vous êtes, vous croyez dans sa bienveillance et sa grâce qui surpasse tout en Jésus-Christ. Le dernier point, et c'est un point rapide, c'est cette joie de vie des justifiés. Va, mange ton pain, bois ton vin gaiement, car Dieu a déjà approuvé tes œuvres et il te donne de bonnes choses. Il veut te bénir, il veut te réjouir. Cette joie de vie est justifiée, c'est cette joie de vie qui nous pousse à travailler avec zèle dans tout ce que nous faisons. Vous pouvez penser que je suis en train d'enseigner quelque chose qui est dangereux, parce que c'est une manière de dire vous n'avez pas besoin de vous occuper des drames de la vie, de penser aux gens qui se perdent dans leur péché, d'évangéliser, de prier à la quart d'heure. Va simplement manger ton pain et réjouis-toi des joies ordinaires de la vie. Non, c'est pas cela. La personne qui se réjouit ainsi d'un Dieu qu'il a déjà approuvé et qui lui donne constamment du bonheur, c'est cette personne-là qui est le plus fortifiée, qui dans son cœur est tellement content qu'il ne peut pas supporter de voir d'autres qui ne savent pas, qui ne connaissent pas cette joie de salut. C'est cette personne qui a cette joie de vivre qui va travailler dans son métier et dans son service pour Dieu de la manière la plus zélée. Nous avons lu dans la fin de notre passage, j'ai obscurci un peu la partie au début, que vous voyez, va, mange avec joie ton pain, mais à la fin, le verset 10 dit, tout de suite après ce commandement vers la joie de vivre, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc, le résultat de cette joie de vivre, c'est que ça nous libère d'un chagrin, et d'un sens que rien n'a une raison d'être dans ma vie parce que tout est vanité, ça te libère de tout cela pour faire avec ta force ce que Dieu te donne à faire. Oui, dans le sens de ton métier, parce que ramasser des poubelles, c'est une bonne œuvre si tu le fais dans la foi que Dieu t'approuve dans tout ce que tu fais à cause de Jésus-Christ. Mais cette joie de vivre nous amène à faire avec toute notre force, pas seulement notre métier ordinaire, mais aussi son service et la poursuite de la sainteté chrétienne. Parce qu'à la fin du livre, l'Ecclésiaste nous dit ceci, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, l'Ecclésiaste n'est pas quelqu'un qui veut qu'on se réjouisse pour oublier le jugement à venir, pour oublier la poursuite de la sainteté. Non, c'est le contraire. Il veut que nous apprenions à nous réjouir de l'approbation de Dieu et de tous les dons de Dieu de tous les jours, justement pour que nous puissions, avec toute notre force, aimer ce Dieu tellement, être tellement imbu d'une affection pour un Dieu tel si bon que nous voulons de toute notre force le craindre et observer ses commandements. C'est ça la psychologie évangélique de la vie. Que Dieu nous aide donc au milieu de la vanité de ce monde, au milieu du drame présent, de ne pas permettre que quoi que ce soit, même le plus grand mal que nous puissions voir, que cela ne puisse pas cacher et enterrer la réalité encore beaucoup plus grande que Dieu nous a déjà approuvé. Et il nous donne du bonheur ici, maintenant, même au milieu de la vanité du monde. David va reprendre le contrôle et nous allons chanter ensemble au sujet de l'amour de Dieu qui nous donne tant de bien.